On les disait austères, sévères, autoritaires et en colère. Oh mon Dieu, c'est quoi ces mégères, des peines à jouir, des mâles baisés. Elles allaient toutes nous les couper et tous les hommes émasculés à cause d'une bande de viragos. Féministe était un gros mot, il faisait froid dans le dos. Elles voulaient prendre le pouvoir et à leur tour nous mater et dominer les différences, les effacer, le masculin, les crabouiller, guillotiner la séduction. C'est fou ce que l'imagination peut nous raconter comme histoire. C'est fou ce qu'elles ont pris dans la poire, celles qui demandaient l'égalité et puis un peu de liberté. Et voir écrit sororité, juste à côté de fraternité. Elle voulait un peu de justice, on a dit stop aux castratrices et au bûcher leur vanité, jusqu'à ce qu'une bande d'actrices un peu téméraires ou fêlées viennent se jeter dans la mêlée. Et puis voilà que Beyoncé, la queen, la reine, l'impératrice, décide aussi de s'en emparer. De poudre, c'est une traînée. Sur Twitter, cascade de mots-clés, c'est du nous toutes, c'est du me too, du time's up, ou balance ton porc. Elles sont des milliers à faire corps à l'ère du 2.0, à celle des réseaux sociaux. Le féminisme change de visage et le mot pimp son image. Il séduit, il est même sexy quand il s'affiche sur les poitrines de toutes ces belles anonymes. C'est un t-shirt produit par Dior, on en veut encore et encore. Ça marche, ça prend et puis ça vend. Tant pis si celles qui l'achètent comprennent pas bien tous les slogans. Ce qui compte, c'est d'être dans l'air du temps, voir celles qu'on traite et l'hystérique. Devenir d'un coup télégénique.
France Inter. Julia Foyce. Pas son genre.
Bonsoir, bienvenue et sous la loupe de Pas son genre, ce soir le féminisme lui-même, ah bah oui, hein. On s'attaque aux fondamentaux, d'autant qu'il mute en ce moment le fondamental, hein. Il change d'image à moins que ce soit nous qui ayons changé de regard sur lui. Le féminisme serait-il devenu cool? Pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir deux femmes qui manient Twitter, YouTube ou Instagram comme personne, deux femmes qui dont l'engagement féministe se conjugue parfaitement à l'air du temps. Raphaël Rémy-Leleu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez longtemps été porte-parole d'Oser le féminisme et vous êtes surtout l'autrice avec Margot Collette de ce livre « Beyoncé ». Est-elle féministe pour l'interrogation? Avec nous également Marion Séclin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comédienne, vidéaste et scénariste à la tête d'une chaîne YouTube féministe. Vous êtes également aux manettes devant et derrière la caméra d'une nouvelle série sur France TV/Zérostérone dont on peut dire que certains éléments déjà se trouvent dans le titre, hein, je crois.
Absolument.
Avant toute chose, question rituelle dans cette émission, si je vous dis mauvais genre, vous pensez à quoi? Votre petite transgression à vous du quotidien, ce serait quoi, Marion Séclin?
J'ai l'impression que c'est tout ce qui ferait faire à mes grands-parents, c'est-à-dire approximativement tout ce que je fais de mon apparence en passant par mes tatouages, en passant par mon côté rebelle, c'est mauvais genre.
Et vous, Raphaël Rémy-Leleu?
La première évidence, c'est le 1m80.
Ah, ah,
ah, oui,
ouais.
Parce qu'il faudra. On en reparlera quand il faudra porter des trucs lourds, mais quand l'homme qui vous dit ça fait deux têtes de moins que vous, en termes de crédibilité, c'est bof.
Un petit peu gênant. Donc le 1m80, les 1 des grands-parents, on prend, on aime, on valide. Elle, je sais pas si c'est parce qu'enfant elle jouait de la flûte traversière qu'elle fait mauvais genre. En tout cas, aujourd'hui, elle rappe et elle fait ça très très bien. C'est Lizzo sur France Inter. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But again, I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, oh baby, I don't know what I'm gonna do. I love you, yeah. Says I Love You, c'est le titre de ce morceau, c'est le titre du dernier album de Lizzo. Lizzo et ses barésies, Lizzo et ses rondeurs fièrement affichées sur son Instagram. Lizzo qui dit self-empowerment et body positive. Lizzo qui répète qu'elle est célibataire, libre et fière de l'être. La rappeuse américaine serait-elle l'une des incarnations de ce féminisme version 2019? Un féminisme qui serait désormais chic, pop, rock, glamour ou tout simplement cool. C'est la question qu'on se pose ce soir avec Raphaël Rémy-Leleu, ex-porte-parole d'Oser le féminisme et toujours autrice de Beyoncé est-elle féministe. Avec Marion Séclin, également comédienne, scénariste et youtubeuse engagée. Et avec vous, bien sûr, qui nous écoutez. Vous êtes prêts? Eh bien, on y va.
Passons genre.
Nous qui sommes embrassées, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Debout, l'hymne du MLF créé en 1971 dans une chambre de bonne parisienne et que l'on continue de chanter partout à chaque rassemblement féministe, dans les cortèges, dans la rue. Ou comme ici, là c'était à la rentrée sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Personnellement, cette chanson me met systématiquement les poils. Elle vous fait quoi, vous, Raphaël Rémy-Leleu? Je vous ai vu la chanter, donc vous la connaissez par cœur évidemment.
Oui. J'avoue, c'est différent quand on l'entend là, qui est à la fois un rassemblement militant devant l'Hôtel de Ville, mais aussi un rassemblement d'hommage, voire de feumage à ces femmes. Ou quand vous êtes en train de le chanter de manière ultra festive, avec un mégaphone le 8 mars, en faisant marcher un cortège de 800 personnes. C'est très différent, mais il y a tellement de force dans ce chant, tellement de belles choses sur notre héritage en tant que féministe, que c'est toujours... On est plus motivé après l'avoir chanté ou après l'avoir entendu.
Et vous, Marion Séclin, elle vous fait quelque chose, cette chanson-là?
Moi, je ne connais pas du tout cette chanson-là. Je pense que j'ai
Vous disiez hors antenne que vous étiez électron libre, et donc je le confirme.
J'ai été absolument pas... j'ai l'impression d'avoir fait grandir en moi, pousser une forme de volonté de changer les choses sans jamais avoir eu l'occasion de me cultiver sur ces choses-là. Et c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure. Mais ça m'a jamais semblé indispensable pour dire ce que j'avais à dire.
Non, bien sûr que non. Mais donc, pour le coup, c'est quelque chose qui... C'est un texte, si effectivement, comme le disait Raphaël Rémy-Leleu, quand vous l'écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez-le en sortant de ce studio.
Je le ferai, mais c'est excitant. J'ai encore des tonnes de choses à découvrir, donc je suis très contente.
Elle résonne très certainement et très fort aux oreilles de celle qui est en ligne avec nous. Florence Moreno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, militante féministe des tout premiers combats ou presque. Et ce soir, si vous n'êtes pas en studio avec nous, c'est que vous fêtez, au moment où on se parle avec vos camarades, les 20 ans des Chiennes de Garde, mouvement dont vous êtes à l'origine. Le nom des Chiennes de Garde, il vient de vous. Comment est-ce qu'il vous est venu?
Oh, c'est simple, j'en avais marre. Je trouvais que ça suffit, les machos. Et j'ai voulu abonner un bon coup, leur dire non, ça suffit. Il faut respecter la dignité des femmes. Alors j'ai cherché un nom pour ce nouveau groupe que j'allais fonder et j'ai pensé à l'anglais Watchdog, qui est un nom très courant pour désigner un comité de surveillance. Ouais. Je l'ai traduit au féminin, chienne de garde. Oui, il y avait bien un double sens. Eh bien, je trouvais ça très amusant.
Pourtant, on vous l'a reproché, ce nom. Les journalistes filaient la métaphore avec la meute, avec les crocs, avec les aboiements. Et écoutez comment Isabelle Alonso, l'une des figures des Chiennes de Garde, était accueillie chez Thierry Ardisson en juin 2014.
Alors le livre s'appelle « Pourquoi je suis une chienne de garde ?» Alors évidemment, moi quand j'ai lu le livre, j'ai eu très très peur. Voilà. Et j'avais raison. Pourquoi je suis une chienne de garde? C'est Robert Laffont. Alors pourquoi vous êtes chienne de garde?
Parce que j'en ai marre de la misogynie ambiante, la petite misogynie de tous les jours, là, pas les
mais
gros trucs.
Code,
Celle de Baffy, par exemple, qui
voilà,
est un petit garçon.
Voilà, voilà, voilà. Voilà, Baffy, vous venez de donner un exemple de ce que combat Isabelle Alonso.
Moi, j'ai lu le bouquin d'Isabelle et j'illustre son propos, tout simplement. Je vais comme ça, illustrer deux, trois fois.
Et ça fait longtemps qu'il l'illustre, même avant que j'ai écrit le bouquin.
Il y a combien de filles aux chiennes de garde?
À l'association elle-même?
Non, qui sont prêtes à nous couper les couilles. Il y en a combien?
À couper les couilles? Ouais. Mais aucune, ça ne nous intéresse pas de couper les couilles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des couilles qu'on aurait coupées après?
Je sais pas,
attendez. Non, aucun intérêt. Non, ça
il y a combien de filles qui nous
disent? Ça, si vous permettez, une activité stérile.
Florence Moreno, Thierry Ardisson n'était pas le seul. Hein. Vous en avez pris plein la poire. On vous a traité à l'époque de tout et n'importe quoi, de bourgeoise, de parisienne, d'antello, d'être trop politique ou pas assez, d'être agressive, d'être revancharde. Et tout ou beaucoup partait de ce nom-là. Est-ce qu'avec le recul, vous le regrettez?
Mais au contraire, je suis plus que jamais chienne de garde. Et quand on me disait que c'était animal et que ça faisait un peu chienne en chaleur avec un air dégoûté, moi j'aime bien ce nom parce qu'après tout, je préfère être en chaleur qu'être en froid.
Raphaël Rémy-Leleu, vous incarnez la génération suivante. Hein, Oser le féminisme fête cette année ses 10 ans. Quel est l'héritage des chiennes de garde dans vos combats ou dans le débat d'aujourd'hui?
Alors, on nous pose souvent la question, ce qui est assez terrible pour moi finalement, c'est qu'on acte dans le milieu militant. Finalement, il y avait le MLF et les chiennes de garde dans les années 70, dans les années 80. Mais dans ce cas-là, qui était là, si je suis la nouvelle génération, qui était là pendant mon enfance à moi? Qui était là pendant les années 90, pendant les années 2000? Et justement, c'est notamment Isabelle Alonso qui, toute seule, tenait un peu la baraque quand chienne de garde, quand féministe était une insulte. Mmh. Et ça représente cette continuité, cet héritage, ce matrimoine qu'on aurait tort de renier et qui est en fait une beauté et une force supplémentaire pour nous. Donc c'était très important pour nous de fêter tout autant les chiennes de garde que les très nouveaux mouvements féministes. On a essayé de le faire dans le livre Beyoncé est-elle féministe, de montrer cette continuité entre les combats, y compris de quelques siècles précédents.
Laurence Moreno, un certain féminisme d'aujourd'hui est dit plus doux, plus cool, plus glamour même parfois. Quel regard est-ce que vous portez sur ces nouvelles générations de féministes?
Il y a beaucoup de sortes de féministes. Le féminisme n'existe pas. Ce sont des groupes avec chacun leur identité, leur couleur, leur motivation, leur type d'engagement. Alors celle d'aujourd'hui, il y a de tout. Moi je rencontre beaucoup de jeunes féministes dans les groupes où nous sommes, de générations différentes, parce que c'est le moment pour moi de transmettre. Et je trouve que certaines apprennent avec beaucoup de bonne volonté ce qui s'est passé avant, pour éviter de refaire les mêmes choses ou les mêmes erreurs. Et elles ont des approches différentes, c'est sûr. Et ça dépend de chacune d'où on vient, où on en est. Mais le désir est toujours le même. Un monde plus juste, un monde moins violent.
Merci infiniment Florence Moreno d'être passée par Passons-en. Vous souhaite à vous toutes, à toutes les chiennes de garde, un très très bel anniversaire. Oui, Raphaël Rémy-Leleu, 10 ans après la création d'Oser le féminisme, est-ce que vous diriez qu'il faut encore oser être féministe? Est-ce que ça demande encore de l'audace, voire du courage?
Oui, bien sûr. Ouais. Typiquement, j'aimais beaucoup dans votre introduction, elles sont peut-être passées d'hystérique à télégénique, sauf qu'on se fait encore traiter d'hystérique à la télé, on se fait encore traiter de connasse, on nous explique encore quand on défend la PMA pour toutes qu'on est forcément une lesbienne mal baisée. Ça requiert toujours du courage ouais. Et de l'audace d'être une femme de manière générale encore dans ce monde et une féministe sûrement encore plus.
Marion Séclin, quelle réaction est-ce que vous entendez autour de vous quand vous dites « je suis féministe » ?
J'ai toujours beaucoup de personnes un peu déçues ou qui me disent non mais
déçues, oui.
Ah oui. Toi t'es pas le genre un peu
chienne de garde.
Chienne de garde. Bah, on me le dit pas trop comme ça parce que c'est vrai que c'est pas des termes, mais beaucoup on me dit non mais t'es pas une vraie féministe parce que toi tu nous emmerdes pas. Et ce qui est drôle puisque les réseaux sociaux disent plutôt l'inverse. Toi t'es vraiment une féminazie parce que tu nous emmerdes. Et donc je suis sur le prisme du féminisme de la plus soft à la plus agressive qui existe. Et mon entourage trouve toujours ça chiant. Féminisme va avec chiant. Hier encore, j'ai entendu quelqu'un dire non, mais c'est pas le féminisme un peu chiant, je le disais. C'est-à-dire qu'il demande de faire des efforts pour abandonner ses privilèges. Oui, non, effectivement.
Quels sont les reproches qui reviennent régulièrement dans ce qu'on vous fait? C'est d'être chiante et d'être castratrice. C'est quoi? C'est de mener un combat qui est devenu inutile parce que finalement tout va bien. Qu'est-ce qui revient le plus souvent?
Oui, il y a des choses très prégnantes comme ça. La formule de Finkielkraut qui est restée, vous êtes de mauvaise gagnante. Enfin, on aimerait bien ne pas se fatiguer aussi à militer plus de 70 heures par semaine. Ou alors beaucoup, vous choisissez...
Pour vous aurez gagné quand?
On le saura. On le saura. Ouais. Le jour où on a gagné, on le saura. On sera dans un monde plus apaisé, moins violent, on dormira mieux. Et par contre, j'aime beaucoup un texte d'Andrea Dworkin qui réclame une trêve de 24 heures durant laquelle il n'y aura pas de viol. Alors déjà, le jour où on aura 24 heures sans viol, on pourra se dire qu'on aura fait un grand pas en avant. Mais on est très très loin du compte.
On est loin du compte, oui. Avec un viol toutes les 7 minutes, au moins en France, on est très loin du compte. Marion Séclin ?
Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est quand je dois ménager l'ego de la personne à qui je parle. C'est ça qu'on me reproche le plus. C'est de ne pas ménager l'individu à qui je parle. Et donc, ça bifurque toujours vers un « oui, mais pas moi », par exemple. Moi, je fais pas ça. Ou mes amis ne font pas ça.
Le fameux hashtag « not all men », c'est-à-dire tous les hommes ne sont pas des agresseurs, tous les hommes ne sont pas des violeurs.
C'est quelque chose de très agaçant de devoir choisir avec précision ses mots quand on dénonce quelque chose de fondamentalement plus grave que juste l'ego de la personne à qui on parle. Ça, moi, c'est le truc qui me court le plus sur le haricot. Et cette expression est obsolète, mais je l'aime bien.
C'est ce que
finalement.
J'allais dire pour une youtubeuse. Voilà. Je ne savais pas qu'on disait encore courir sur le haricot. Alors, vous avez lancé votre chaîne YouTube en 2018. Et à ce moment-là, vous avez essuyé une campagne de cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé? Vous êtes d'accord pour nous?
Absolument. Raconter ça? En fait, c'était juste avant. J'avais pas lancé ma chaîne YouTube quand je me suis fait cyberharceler, ce qui était du coup assez amusant. J'ai fait une vidéo en 2016 pour dénoncer le victim blaming en général, c'est-à-dire la tendance qu'on a à dire aux victimes de harcèlement qu'elles l'ont quand même un peu cherché et que c'est pas de la faute de leur harceleur de toute façon, si elles avaient une jupe, si il était bourré, si tout ça. Et dedans, j'ai eu tendance à faire un amalgame entre la drague de rue que certains imaginent comme quelque chose de très stylé à recevoir et le harcèlement de rue.
On va l'entendre tout à l'heure d'ailleurs.
Voilà. Et donc, cette vidéo a beaucoup déplu à toute une communauté de jeunes garçons qui se sentent, eux, perdants de la société, puisque n'ayant pas les atouts physiques qu'on imagine de Superman, se disaient, bah non, puisque nous, on n'arrive pas à coucher avec des femmes, ça veut dire que vous avez le dessus dans la drague et que vous n'êtes pas donc des victimes de harcèlement. Et j'ai eu une campagne de cyberharcèlement qui a duré à peu près 2 ans, sans jamais vraiment s'arrêter.
Avec toujours ces insultes, c'est des menaces de mort, c'est des appels au viol,
exactement.
C'est tout ça à la fois.
Ouais, c'est dans la rue aussi, dans mon existence, ça, évidemment, ça ne pouvait pas rester que sur Internet, ça n'existe pas, quelque chose qui reste que sur Internet. Ouais. C'était embêtant parce qu'Internet était mon travail, donc je ne pouvais pas tellement y aller en me sentant en sécurité. Ouais. Et j'ai eu des menaces dans la rue quand je croisais des groupes de jeunes, peu près tout ça. Pendant donc 2 ans, ça a été, ça a été énorme. Et puis ça s'est un peu apaisé, mais c'est toujours en fond, c'est-à-dire que j'ai toujours toute une armée de chiens de garde, justement, j'ai envie de dire, qui sont derrière,
sont
en train
prêts
à mordre à chaque fois que je vais dire quelque chose.
Et malgré tout, vous continuez, franchement, bravo. Comme quoi, de ce point de vue-là, non, au quotidien, ce n'est pas toujours très cool d'être féministe. En revanche, le mot lui-même semble avoir perdu quelques aspérités. On parle de girl power parfois, et si on le dit en anglais, c'est que cette coolitude nous vient en grande partie des États-Unis. Là-bas, le combat a été repris par Hollywood, et du moins sur la forme, ça change un petit peu la donne. Écoutez Nathalie Portman à la Marche des Femmes en janvier 2018.
A world in which I could wear whatever I want, say whatever I want, and express
un monde où je pourrais m'habiller comme je veux, dire ce que je veux, exprimer mes désirs, sans craindre pour ma sécurité ou ma réputation.
That would be the world in which female desire and sexuality could have its greatest expression and fulfillment. That world we want to build is the
ce monde que nous voulons bâtir est l'opposé du puritanisme. J'aimerais vous proposer une façon de poursuivre cette révolution. Proclamons haut et fort, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je désire. Voilà comment vous pouvez m'aider à avoir du plaisir, faire la révolution du désir.
Raphaël Rémy Leleu, qu'est-ce que ce discours raconte pour vous dans l'histoire des mouvements féministes?
Ça raconte le moment où finalement il n'est plus possible de fermer les yeux, où véritablement c'est l'explosion de la parole des femmes, l'explosion de cette parole face à tous les murs qui avaient été dressés devant elles, et en même temps ce côté politique qui est magnifique, de voir à quel point chaque ressenti de femme, chaque émotion, chaque colère, chaque tristesse, chaque moment où on s'est dit « mais non, je suis folle, je suis seule dans mon coin à trouver ça injuste », et de comprendre qu'en réalité nous sommes des centaines, nous sommes des millions à le ressentir chaque jour et à pouvoir l'expliquer.
Et qu'on soit une actrice d'Hollywood ou une lambda, comme
c'est la racine de la sororité.
Là, on est 2 mois après MeToo. MeToo là-dessus, sur l'image du féminisme, est-ce que selon vous, MeToo marque un vrai tournant? MeToo balance ton port d'ailleurs. Aujourd'hui, on en est à 1 Français sur 2 qui se disent féministes. C'est environ 10 points de plus qu'il y a à peine quelques années, à peine 3-4 ans. Est-ce que c'est MeToo, ça, qui coulisse
alors,
le féminisme, si je puis me permettre?
Ça a beaucoup évolué, notamment chez les plus jeunes. Et je pense que MeToo, en plus d'avoir aidé beaucoup de femmes, a rendu le féminisme politiquement incontournable. En plus du travail qu'avaient pu faire les militantes et les militants pendant des années. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure du nom des chiennes de garde. Finalement, quand nous, on a nommé l'association Oser le féminisme, on s'était dit... parce qu'il y en a encore besoin, parce que ça ne doit plus être une insulte. Aujourd'hui, être féministe, ça n'est plus une insulte. Et donc, forcément, on a énormément évolué.
Marion Séclin n'est pas tout à fait d'accord.
Pas tellement, non. C'est toujours, moi, dans mon cercle, même pas particulièrement proche, assez difficile à dire et à entendre, même venant de personnes qui sont a priori éduquées et de milieux plutôt aisés. C'est toujours aujourd'hui difficile de le dire et c'est toujours vu comme quelque chose de... elle va nous faire chier.
Et on entend,
clairement.
On entend toujours vous confirmer le je suis pas féministe, mais je suis pour l'égalité homme-femme.
Bien sûr. Bien sûr.
Absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis humaniste.
On n'a pas réussi à expliquer les choses. C'est un problème de lexique. Il faudrait ne plus dire féministe et il faudrait dire je suis, je sais pas, antisexiste.
J'aime à penser qu'on a été justement beaucoup trop patiente.
Ouais.
Et que je ne préconise absolument pas beaucoup plus d'agressivité. Je dis juste que, en fait.
On peut brûler quelques voitures.
Point. C'est juste, maintenant c'est comme ça. Ça s'appelle
féminisme. Bloquer les autoroutes.
Oui, si ça démange, je veux dire. Quelques ronds-points.
On peut bloquer quelques ronds-points. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on a été très patiente. On a beaucoup essayé de l'expliquer. On est toujours hyper gentil. Moi, je suis la première à être très gentille. Je suis la première quand je me fais attaquer où on me dit, tiens, je connais ton discours. Toi, apparemment, t'es en colère. Donc, vas-y, parle-moi. Et je vais juger tout le féminisme sur uniquement ce que tu vas me dire. J'ai tendance, moi, à me dire, faut absolument que je sois gentil parce qu'il faut surtout pas que je desserve ma cause, parce que c'est aussi quelque chose qu'on nous dit beaucoup. Ouais. Dès qu'on dit quelque chose comme merde, on nous dit waouh, elle dessert sa cause, elle est en colère, regardez-la. Donc je fais tous les efforts pour ce mouvement. Maintenant, j'ai vraiment envie de répondre juste merde.
Il y a des points de résistance énormes. Ce qui est fou, c'est de voir que les critiques que l'on faisait aux chiennes de garde au début, vous les entendez au début des années 90, vous les entendez aussi, au début des années 2000, pardon, vous les entendez vous aussi maintenant. Ça, c'est fou. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous le disiez tout à l'heure, Raphaël Rémy-Leleu, le féminisme devient incontournable. C'est grâce à MeToo, mais c'est aussi grâce à elle, Beyoncé, en 2014 au MTV Music Award. Elle est sur scène, la queen, la reine du R&B, et derrière elle, il y a écrit en très gros et en lettres blanches le mot féministe. Ça change quoi, Raphaël?
Ça a changé déjà massivement le débat. C'est l'une des premières fois dans l'histoire des réseaux sociaux que le féminisme est un sujet, devient l'un des sujets principaux pendant plusieurs semaines de débats sur Internet. Et ça change aussi en termes de visibilité, puisque l'un des grands combats féministes, c'est la question de la visibilité des femmes, de notre accès à la parole publique, à l'espace public, au débat public. Et quand vous avez quelqu'une avec une audience telle que celle de Beyoncé qui affiche féministe, là pour le coup le mot est très très gros, mais c'est une très très bonne chose.
Sauf qu'on lui reproche de pas être une bonne féministe, c'est-à-dire qu'on lui reproche de vider le message de sa substance, de vulgariser tellement ses idées-là qu'elles n'en sont plus. Marion Séclin, vous en pensez quoi, vous?
Je pense pas, surtout pas en 2019, qu'il y a un bon et un mauvais féminisme. Le féminisme, c'est un truc qui s'approprie, justement, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se vulgarise, c'est quelque chose qui se salit, c'est quelque chose qui se vit. On passe toutes, moi-même, si je regarde dans mon combat féministe, qui j'étais il y a 5 ans, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai affiné mes idées, j'ai été plus ou moins en colère, j'ai été plus ou moins prête à me lancer dans ces trucs. C'est pour moi la meilleure des solutions. C'est juste effectivement de faire en sorte que tout le monde se l'approprie. Et il n'y a pas c'est pas quelque chose qui se fait dans des cases, le féminisme, c'est pas possible. Sinon, effectivement, si on pense comme ça, on va toutes être les unes contre les autres au bout d'un moment.
Et quand vous, du coup, vous abordez la question du harcèlement de rue, on le promettait tout à l'heure, et ben ça donne ça.
J'ai donc fait comme j'ai fait la fois passée avec le hashtag T'es féministe mais, et je vous ai demandé sur Twitter les phrases les plus what the fuck que vous aviez entendues sur le harcèlement de rue avec le hashtag T'as été harcelée mais. Voici donc une petite poignée des réactions sur le harcèlement de rue et pourquoi elles sont totalement à côté de la plaque.
T'as été harcelée, mais tu pourrais être flattée quand même.
Oh, j'avoue, c'est trop mignon qu'un inconnu me donne son avis sur mon physique alors que je lui ai rien demandé et surtout que j'en ai rien à carrer. Que ce soit un compliment ou une insulte, si quelqu'un porte atteinte à ma tranquillité dans la rue, je vais pas lui filer une médaille.
Tu veux une médaille ?
Quand je me déplace dans l'espace public, personne n'est légitime pour me donner son avis.
Si je peux juste me permettre,
tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets.
Benoît Poulvord, évidemment. Vous interpellez à coup de hashtag, de regard caméra, de montage vidéo. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est les outils du web, les réseaux sociaux ont permis à tout le monde de s'approprier le féminisme sans avoir besoin de s'encarter, en sortant des chapelles d'une certaine doxa, c'est ça ?
Ouais,
surtout. Et d'une hiérarchie.
J'ai été la première à faire ça, c'est-à-dire à ne pas avoir une culture de l'histoire féministe avant de décider que moi l'égalité je la voulais maintenant et tout de suite, et j'ai pas, je me suis pas sentie légitime parce que j'avais justement pas ça. Et c'est la même chose pour tout le monde et pour tous les réseaux sociaux, c'est que ce que j'essaye de faire dans mes vidéos, tantôt très bien, tantôt avec maladresse, c'est de dire aux gens, en fait, laissez-moi juste vous expliquer pourquoi les doubles standards ne sont pas corrects. Et pourquoi, avec les réseaux sociaux, vous allez pouvoir vous entraider, vous trouver des voies communes.
Et quel est le point de vue alors de l'ex-porte-parole que vous êtes d'une association qui est certainement l'une des plus importantes créées ces dernières années, Raphaël Rémy-Leleu? Qu'est-ce qu'Oser le féminisme pense de Marion Séclin et des youtubeuses qui s'emparent de ces thèmes-là et qui, comme Marion Séclin le dit, se sentent pas forcément légitimes toujours, mais ils vont quand même, font parfois des erreurs, n'ont pas cette culture-là, cette histoire-là, mais ont envie d'égalité. Vous en pensez quoi?
Ah, mais qu'il s'agisse de Marion ou de quiconque d'autre, nous déjà on est ravis quand des femmes prennent la parole. Oui. Et d'autant plus, ça a été merveilleux pour nous de voir, y compris des sujets qu'on a défrichés à des moments où on se sentait un peu plus seul. Je pense à la campagne sur le clitoris qu'on a lancée en 2011, une campagne qui s'appelait Oser le clito. Et sur lesquels on a eu des retours presse, mais hallucinants. Enfin, là, pour le coup, il y a des grands, grands titres de presse qui nous traitaient de connasses et d'hystériques en pleine page, sans aucun problème. Et donc, quand en 2018-2017, on voit des tonnes de youtubeuses parler de clitoris, ouais, ou parler de plaisir, de désir, ça fait du bien aussi.
Et à l'arrivée, ça nous fait 700 000 vues, parfois jusqu'à 700 000 vues sur YouTube pour vous. Marion Séclin, 277 000 abonnés pardon, sur Instagram. Ce qui allait me conduire à une autre question que je n'aurais pas le temps de poser. Donc, vous reviendrez. Le féminisme est-il devenu bankable? Voilà. Allez, on va se donner quelques mois pour y revenir, comme ça ils auront oublié. Et on voit une autre de Queen, qui décidément ce soir on se fait très très plaisir avec une gamine du Bronx, un peu badass, assez mauvais genre, partie de rien ou de pas grand chose, qui peu à peu se fait une place au milieu de toute cette testostérone, de ces gros musculeux de copains rappeurs. Aujourd'hui, elle a gagné son titre de Queen du hip-hop soul. Vous l'avez reconnu, ce son, évidemment, Mary J. Blige, avec ce titre culte entre tous qui ne fait fiout remonter jusqu'en 2001. À l'époque, non, le féminisme n'était pas cool. UFR, un classique des classiques sur France Inter, et c'est bien le genre de pas son genre. Allez, eux, c'est notre cam. Ce soir, ils viennent de s'installer aux côtés de Marion Séclin, youtubeuse, comédienne, scénariste, et de Raphaël Rémy-Leleu, figure d'Oser le féminisme. Et ils ont le féminisme aussi cool qu'elle, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, c'était le sujet qui nous occupait en première heure. Cela dit, on n'en est pas si loin avec vous. Cécile Demas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe à Libération, notre partenaire chargé des pages idées, mais aussi aux manettes de Elle, newsletter mensuel sur le genre et les sexualités. Ce qui vous amène ce soir pourrait tenir en un hashtag, balance ton porc, on le lui doit, cet incroyable sursaut des femmes sur les réseaux sociaux. À l'origine, c'est elle, son nom ?
Sandra Müller.
Le sien, c'est Maxime Ruzniewski, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur pour Pardi Productions, vous avez cofondé la Fondation des Femmes. Et dans la série Même pas peur, ce soir, vous vous attaquez à un monument du cinéma, son nom ?
Woody Allen.
Sandra Müller et Woody Allen, voilà qui va nous occuper sérieusement les méninges. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver sur France Inter.
France Inter, passons genre.
Et je vous ai promis, juste avant Mary J. Blige, une émission entière sur le féminisme. Est-il bankable ? En fait, Marion Séclin et Raphaël Rémy-Leleu y ont répondu en une phrase. Allez, le féminisme est-il bankable ?
Oui, mais pas pour les féministes.
Okay. Absolument. C'est, si les marques veulent en profiter, oui, comme avec le greenwashing, tout ce qui est washing. Mais en général, les féministes continuent à payer les pots cassés.
L'argent est partout, sauf dans les associations féministes.
Dans nos poches. Et dans mes poches.
Et dans les tiennes aussi, d'ailleurs. Et dans celles qui travaillent sur le domaine. Oui.
Allez, à moins d'avoir passé les deux dernières années dans une yourte, vous avez certainement entendu parler d'elle. Sandra Müller, cette journaliste à l'origine de la déferlante Balance ton porc en France. Une semaine après l'explosion de l'affaire Weinstein, elle tweetait « Toi aussi, raconte en donnant le nom et les détails du harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Et puis, 4 heures plus tard, tu as de gros seins, tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. » Éric Brion, ex-patron de Equidia, hashtag balance ton porc. Assez vite, Éric Brion reconnaissait ses propos, présentait des excuses publiques et puis 2 mois et demi plus tard, il l'attaquait en diffamation. Le jugement est tombé mercredi et ça, c'était le flash d'Alexis Lemeyer sur France Inter.
La créatrice du hashtag balance ton porc, condamnée pour diffamation envers l'homme qu'elle avait accusé de harcèlement. Il y a 2 ans, en pleine affaire Weinstein, Sandra Müller avait incité sur Twitter les femmes à dénoncer publiquement leur harceleur. Elle-même avait cité Éric Brion, l'ancien patron de la chaîne Equidia. Cet après-midi, les juges du tribunal correctionnel de Paris ont estimé que le délit de harcèlement sexuel n'était pas caractérisé dans cette affaire, car il n'y aurait eu ni pression grave, ni répétition. Celle qui est journaliste à la lettre de l'audiovisuel est condamnée à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à Éric Brion. Elle doit aussi retirer le tweet jugé diffamatoire. Sandra Müller va faire appel de cette condamnation.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jugement, vous, Cécile Demas ?
C'est une décision de justice qui a créé, je crois, un immense sentiment d'injustice auprès de milliers de femmes, même on peut dire des millions.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, on est dans une décision de justice qui ne prend pas compte de l'histoire, qui est une décision de justice qui est strictement judiciaire, avec une lecture très judiciaire des faits. C'est comme l'a rappelé le journaliste, en fait, les juges sont restés à une lecture du harcèlement sexuel. Donc, selon la loi, il faut évidemment qu'il y ait une répétition, une violence caractérisée et apporter des preuves. Malheureusement, visiblement, au regard de la loi et de la justice, Sandra Müller n'a pas apporté assez de preuves. C'est toujours le problème dans ces cas de harcèlement sexuel, c'est que c'est les preuves. Il faut apporter des preuves. Et en général, ce sont quand même des faits qui se passent à huis clos et donc il n'y a pas de témoins. Et donc, souvent, très souvent, les harceleurs ne sont pas condamnés.
Sauf que aux féministes qui dénoncent cette décision de justice, on répond, attendez, on applique strictement la loi, il n'y a pas de harcèlement.
Alors la loi est strictement appliquée. Pour le harcèlement sexuel, visiblement, ils font appel. Après, il y a un problème d'un procès et d'un jugement qui est rendu hors sol, comme s'il n'était pas pris dans une histoire exceptionnelle, car quand même, il faut être un peu bizarre quand même pour occulter pareillement le phénomène MeToo. Et c'est ce qu'ont fait les juges. Alors, la plaignante, évidemment, Sandra Müller, a fait appel. Donc l'affaire n'est pas finie.
Ouais.
Mais c'est quand même un signal d'alarme, enfin un signal donné aux femmes de ne pas parler. Et en tout cas, voilà ce qui peut vous arriver. Ça peut être aussi un avertissement aussi pour toutes ces femmes qui tweetent trop vite ou dans un élan, dans une émotion, puisque la loi s'applique à Twitter. Et donc, faire attention, il y a une présomption d'innocence, il y a la diffamation à respecter, le principe de diffamation. Nous, on le connaît bien dans la presse, mais c'est vrai que quand on tweete, on oublie. Mais il n'empêche que c'est un jugement qui laisse perplexe et qui peut mettre en colère, sachant que il y a eu quand même beaucoup de détracteurs du phénomène MeToo dans le sens d'une on a parlé d'une délation en série, d'une justice rendue à la va-vite sur les réseaux sociaux, d'une judiciarisation des relations hommes-femmes. Bref, bon, il faut quand même savoir que depuis MeToo, ça fait donc depuis 2 ans maintenant, pas une personnalité n'a été condamnée pour des faits de harcèlement sexuel. Donc on en est encore très très loin.
Maxime Rozniewski, dans une autre vie, vous étiez avocat spécialiste du droit des médias, donc la diffamation, vous connaissez. Quel est votre regard sur cette affaire-là? Par exemple, Cécile Domas disait, le tribunal n'a pas pris en compte la portée de ce tweet. Et en même temps, le tribunal dit que si, parce que justement, ce tweet ayant été partagé 2500 fois, ayant donné lieu à 150 000 messages, Éric Brion on a payé le prix et on parle d'une vie, d'un état de mort sociale, d'une vie ruinée, d'une vie conjugale foutue en l'air, etc., etc. Et justement, le tribunal dit on prend ça en compte.
Oui, mais alors, déjà, je voudrais dire ce que Cécile tout à l'heure disait, que les femmes ont été choquées par ce jugement. Moi, en tant qu'homme, j'aimerais souligner que j'ai été extrêmement choqué aussi par ce jugement et par cette condamnation qui est très lourde, 15 000 euros, alors que cette femme est victime. C'est-à-dire que l'auteur de ses propos n'a jamais nié les avoir tenus.
Et c'est pas un procès. La question, c'était pas est-ce qu'il y a eu, c'est pas un procès d'un harceleur qui se défendrait de ne pas l'être. Enfin, c'est un procès pour diffamation, c'est lui qui attaque.
Absolument, c'est un procès de diffamation et je trouve que la condamnation est extrêmement lourde, surtout eu égard à ce que disait Cécile, c'est-à-dire on est dans une période où la parole, comme on dit souvent, se libère. Est-ce que cette condamnation ne va pas dissuader d'autres femmes de parler? Et donc moi, c'est ça qui me préoccupe principalement.
En tout cas,
maintenant,
de poursuivre et de
faire valoir le droit. Maintenant, sur le droit, parce qu'on parlait de diffamation. Oui, ce que dit Cécile est très juste. C'est très compliqué de se faire justice soi-même. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un cadre légal. Est-ce qu'on peut entre guillemets conseiller à ces femmes victimes de violence, de harcèlement, d'agression? C'est de se faire entourer soit du monde juridique, enfin en tout cas quelqu'un de droit, de ne pas se faire justice soi-même, éventuellement même de porter plainte, ou de faire comme Sandrine Rousseau l'avait fait, vous rappelez, avec Denis Baupin, faire appel à des journalistes si on veut avoir un écho médiatique, parce que pourquoi ces femmes on appelle à la presse ou à Twitter? Mais parce que la justice est trop lente, parce que les plaintes ne sont pas reçues.
C'est-à-dire que si on s'en tient aux décisions de justice, 98% des violeurs sont pas condamnés.
Alors Sandrine Rousseau, comme il y a eu une enquête autour d'elle, que les faits ont été recoupés, qu'une enquête a été faite, elle n'a pas été condamnée, c'est-à-dire que la diffamation n'a pas été prononcée. Et dernière chose très importante sur le droit, si ce procès avait eu lieu aujourd'hui, peut-être qu'elle n'aurait été pas condamnée, parce qu'une loi en 2018 a créé le délit d'outrage sexiste en 2018, sauf que la loi n'est pas rétroactive.
Et, ben voilà,
et aujourd'hui, elle n'aurait pas été condamnée. Et c'est pour ça que cette condamnation est particulièrement sévère.
Raphaël Rimé-Leleu, je vous vois faire oui vigoureusement de la tête. L'heure court, mais d'un mot, dites-nous ce que vous pensez là de ce qu'on vient d'entendre.
Mais en fait, c'est l'illustration parfaite à la fois des doubles standards et de l'obscurantisme profond qu'il y a au sexisme et au patriarcat. C'est que finalement, elle est condamnée pour des faits qui ont été reconnus. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin, les propos qui ont été tenus par Brion ont été tenus, puisqu'il s'en est excusé, mais
oui,
elle est quand même
Cécile,
condamnée pour diffamation, comme si elle avait rapporté des propos qui n'avaient pas existé. Et ça montre aussi très bien le double standard, au sens où quel sentiment de puissance et d'impunité il faut avoir en tant qu'homme, qui a été affiché en effet pas mal à cause des retweets et des messages, mais quel sentiment d'impunité et de puissance pour oser l'attaquer ensuite.
Scandaleux.
Sandra Müller et son avocat, Maître Francis Piner, vous le disiez, Cécile Domas dénonce une procédure bâillon, un message envoyé à toutes les victimes de harcèlement ou d'outrage sexiste. Fermez-la. Eux continueront de l'ouvrir puisqu'ils vont faire appel et nous, évidemment, on continuera d'en parler. Quant à vous, Maxime Rozniewski, vous avez décidé de nous mettre bien avec les patrons. Hein. Un jour de pluie à New York est un film France Inter, unanimement salué par la critique. Mais vous, on va dire pour le moment qu'il vous laisse sans voix. Allez, bande annonce.
I got an interview with Roland Pollard.
Oh my gosh, that is amazing.
It's in Manhattan.
Les images du film vous reviennent certainement en tête, Maxime. Vous vous dites quoi?
Ah oui, Julia, je sais qu'en critiquant mon ancienne idole Woody Allen sur France Inter, je risque gros. C'est un peu comme si je m'attaquais à Michel Polnareff sur Chérie FM. Donc je vais m'efforcer d'être le plus factuel possible en ne parlant que du film et pas des polémiques autour. Mais même en dissociant l'homme de l'artiste, croyez-moi, j'ai pas été déçu. Alors, ne perdons pas de temps. Non, ce film ne m'a pas plu. Il m'a même plutôt sidéré. Alors, je le résume rapidement. C'est l'histoire d'un jeune couple d'étudiants qui débarque à Manhattan. Ashley, apprenti journaliste en cinéma, va rédiger l'interview de son idole, un réalisateur de films. Et Gatsby, son petit ami, l'accompagne, mais coup du sort, le couple se retrouve séparé tout au long du film. Alors comme souvent, on retrouve chez ce Gatsby l'alter ego de Woody Allen, un érudit, cinéphile, amateur de jazz et musicien à ses heures perdues. Hein, sacré Woody, hein, il s'est encore réincarné. Mais moi, ce qui m'interpelle davantage, c'est le profil du personnage féminin. Et ce profil, il est récurrent hein, dans la filmographie de Woody Allen. Une jeune ingénue, mini-jupe d'écolière et barésie couleur chair, bref, la tenue tout à fait conventionnelle hein, d'une étudiante de 20 ans qui va faire sa première interview. Le personnage d'Ashley est la représentation parfaite de la jeune femme, tellement candide qu'elle en devient niaise. Elle minaude dans chaque plan, elle bat des cils dans chaque scène, elle bafouille, perd ses moyens, jusqu'à en oublier son propre prénom, mélange ses références, surtout quand elle s'adresse à un homme, hein, évidemment. Et quand elle a bu 3 gouttes de vin, ah bah elle est forcément pompette, hein, parce que qui a dit que les femmes tenaient l'alcool? Son amoureux, lui, il est aussi cinéphile, mais curieusement, lui, il ne bégaye jamais. Pourtant, c'est bien elle l'experte en cinéma, c'est elle la journaliste. Alors Ashley, elle est influençable aussi. Hein. Quand les hommes lui font des avances, elle devient forcément toute chose. Elle se laisse balader d'un point à un autre sans jamais prendre le contrôle de ce qui lui arrive. Évidemment, ils sont bien plus âgés qu'elle, hein, ces hommes de pouvoir, et jamais elle ne leur résiste. Bref, Ashley, c'est cette petite chose esselée, perdue dans New York, incapable de prendre un taxi seule. Elle se perd dans le métro. Bah oui, c'est bien connu, hein, les femmes, elles n'ont pas le sens de l'orientation. Elles ne sont pas indépendantes non plus. Heureusement que son petit copain est là pour lui donner une liasse de billets pour qu'elle puisse rentrer chez elle après une journée de travail. Juste, Julia, est-ce que vous savez ce que c'est que le male gaze?
C'est le regard masculin sur la réalité du monde et en particulier sur les femmes.
Absolument, cette obstination qu'ont les réalisateurs, vous savez, à objectiser les femmes, à les érotiser. Et ben là, on a une belle illustration de male gaze. Quand les hommes du film gardent leur chemise fermée jusqu'au col, Ashley, elle, se retrouve en petite culotte sous la pluie. Bah oui, on va quand même pas lui mettre un pull. Hein. Et donc pour terminer, laissez-moi vous faire un petit tour rapide des personnages de ce film. On a également des personnages secondaires. On a une mère castratrice, une peste, une fiancée dont l'unique utilité est d'avoir un rire de cruche et une escort girl. Ah oui, une escort girl, pardon. On dit escort girl car chez Woody Allen, on ne dit pas prostituée, c'est moins glam. Et si elle peut être blonde, grande et perchée sur des talons, c'est mieux.
C'est Raphaël.
Le problème, juste, c'est que je ne crois pas. Hein. Nos cerveaux se sont tellement habitués à ce male gaze. Ils ont tellement intégré cette représentation des femmes à l'écran que bien souvent, notre cerveau de spectateur ne perçoit même plus ces stéréotypes sexistes. Il ne faut pas oublier qu'en France, un film sur 5 est réalisé par une femme. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreuses réalisatrices comme Céline Sciamma ou Afzia Erdi s'engagent pour que le cinéma se diversifie, se féminise et apporte un autre regard sur les rapports femmes-hommes, si on défendait un peu plus ce cinéma-là.
Alors, il y a effectivement une situation un petit peu particulière quand même, où le film ne sort pas aux États-Unis parce que Amazon a finalement décidé de ne pas le distribuer, et où en même temps, Woody Allen est lui, en France, accueilli avec tous les honneurs au Festival de Deauville. On a eu encore beaucoup d'artistes, Catherine Deneuve a réitéré ses propos d'ailleurs, d'artistes, d'intellectuels qui prennent fait et cause pour le cinéaste en disant il faut distinguer l'homme de l'œuvre. Et une fois de plus, revient cette accusation de puritanisme chez les féministes françaises. Vous en pensez quoi? Est-ce que, à l'aune de ce qui s'est passé depuis MeToo, sachant que Woody Allen a été accusé d'attouchement sexuel sur l'une de ses filles, est-ce qu'on regarde ces films différemment aujourd'hui?
Ben, j'ai regardé par curiosité, j'ai regardé combien il avait fait d'entrées depuis son jour de sortie, donc mercredi. Et en fait, il en a fait 200 000, ce qui est assez modeste vu sa carrière, vu sa renommée. Et je crois que les spectateurs ont aussi envie d'autre chose. Et que ce regard qui fait une œuvre, hein, on peut pas dire que Woody Allen n'a pas fait œuvre, il a fait une grande œuvre, mais peut-être faut-il laisser aussi le regard change et le regard se diversifie. Ouais. Et il faut aller voir effectivement plutôt le Céline, enfin plutôt, et aussi, mais le Céline Sciamma qui est une sorte de d'anti-male gaze qu'il y a une très belle relation entre une femme peintre et son modèle, qu'elles sont toutes les deux donc femmes, et où il y a une égalité de regard. Et là, on est vraiment, je pense, dans du cinéma 2019.
Marion
et post-MeToo.
Moi, je pense que le problème, c'est pas qu'on manque de réalisatrices ou de femmes qui créent, c'est qu'on manque de personnes pour produire leurs idées. Et qu'il faut arrêter de demander la permission. Je fais partie des de premières personnes à dire, il vaut mieux que ce soit mal fait, mais au moins ce sera fait, justement, pour raconter ces autres histoires. Mmh. Et arrêter d'attendre qu'on vienne nous donner la chance et qu'on vienne... parce que ça n'arrivera pas. Et que moi, je préfère clairement crever en me disant qu'au moins j'aurais essayé tout ce que
ça
je peux plutôt que d'attendre.
Ouais. Ah, ceci est un message qui passe entre vous. Il va y avoir des échanges de 0,6.
Effectivement, je pense qu'il y a toute une partie de la population qui veut qu'on lui raconte des nouvelles histoires, mais il y a toute une partie de la population qui trouve ça très bien et qui pense que pour se divertir, il faut vraiment pas se prendre la tête. Donc, ça continuera pour moi, à mon avis, et c'est pas du tout parce que je vois le verre à moitié vide, c'est juste que à toutes les filles qui ont envie de faire des trucs qui existent sur Terre, il faut les faire les trucs.
Et allez-y, quoi.
Il nous reste 10 petites minutes à passer ensemble. On va en profiter. À la technique ce soir, Célim Guéribi, à la réalisation, Marianne Crimbaud, Romy Engels, à la coordination et à la programmation de cette émission. Ce que vous entendez, là, c'est un doux murmure qu'on aime bien ici sur France Inter. Ça s'appelle « Dis-moi que t'y penses » et c'est Malik Djoudi.
Dis-moi que t'y penses. Je vois que tu m'avises. Comment t'y penses? Le malin va vite. Dis-moi que t'y penses. Je vois que tu me dises. Comment t'y penses?
Dis-moi que t'y penses. Et comme tous les vendredis, c'est Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de Passons Genre. Vous en retrouverez évidemment toutes les références sur franceinter.fr à la page de l'émission. Si, si, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster.
Dingue, non ?
Passons Genre. Julia Foyce.
Ce qui est sûr, c'est que depuis MeToo, les frontières se floutent un peu, que depuis Balance ton porc, la terre tremble sous nos pieds, qu'elle nous secoue, et c'est tant mieux parce que ce qui bouge, ce sont des cadres fixes dans lesquels jusqu'ici on enfermait nos sexes, on étouffait le genre. Mais là, voilà, on a enfin l'occasion de le redessiner, de se réinventer. Alors, Raphaël Rémy-Leleux, si je vous demandais de mettre dans notre labo du genre un objet qui raconte votre féminin à vous, de façon totalement subjective et assumée comme telle, ce serait quoi ?
une paire d'aiguilles à tricoter.
Alors, c'est pour le tricot ou c'est pour l'IVG?
Eh bien, c'est pour la totale hypocrisie entre les deux. Parce que c'est quand même extraordinaire qu'on renvoie les femmes au foyer, à la douceur, aux travaux domestiques. Et qu'en même temps, on exerce sur elles une telle violence, y compris dans le contrôle public de leur corps. En plus, demain, c'est la journée mondiale de lutte pour le droit à l'avortement.
Exactement, c'est demain et c'est loin d'être gagné. Et même, on est dans une légère situation de reculade dans certains endroits du monde. Vous, Raphaël Rémy-Leneux, quand est-ce que vous avez pris ces aiguilles à tricoter? Au sens, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte des violences faites aux femmes, que peut-être vous avez posé ce mot-là sur ce combat que vous meniez, c'est-à-dire féministe?
Je me suis rendu compte, en fait, de l'inégalité de traitement avant de me rendre compte des violences. Et l'inégalité de traitement, c'est tout bête. C'est quand vous avez 3 ans, que vous êtes à la maternelle et que vous réalisez que ça irait beaucoup plus vite d'aller faire pipi debout à l'urinoir puisqu'il n'y a personne et qu'on vous dispute copieusement pendant 2 heures parce que vous avez fait pipi debout à l'urinoir. Et des choses d'une absurdité telle qu'une enfant ne peut pas le comprendre. Mmh. Et ça, c'est le début de beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions en chaîne qui ont mené à un féminisme décomplexé.
À une belle carrière dans l'engagement féministe. Aux côtés des aiguilles à tricoter de Raphaël Rémy-Leneux, nous trouvons quoi, Marion Séclin?
C'est des ouïes, parce que j'ai un tatouage d'ouïes dans le dos, ouais. Donc c'est ces orifices qui sont sur les violoncelles et les contrebasses. Et j'ai grandi en ayant l'image dans ma tête qu'une femme devait avoir le corps d'une contrebasse et que moi, étant plutôt grande, plutôt fine et plutôt pas très formée, ou en tout cas comme un jeune garçon, je ne serais jamais une vraie fille. Donc je me suis fait tatouer ça à 18 ans. Et aujourd'hui, je les regarde avec beaucoup de compassion vis-à-vis de la jeune fille que j'étais, qui croyait qu'être une femme, c'était être dans un corps précis. Et aujourd'hui, je les aime toujours, mes ouïes, mais c'est vrai que je les trouve un peu obsolètes et que ça me fait quand même plaisir de me dire que j'ai évolué.
Et même question qu'à Raphaël, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « je suis féministe » ?
Oui, je pense que c'est quand je suis rentrée dans le milieu professionnel. J'ai passé ma vie à penser que si j'étais traitée différemment, c'était parce que j'étais chiante en tant qu'individu, en tant que personne. Parce que ma mère m'a élevée de manière absolument pas genrée. J'étais pas une fille, enfin je le savais pas. C'est parce qu'on me le disait que je le savais, mais elle ne m'a jamais fait sentir cette différence. Et j'arrive à l'âge adulte et je vois que c'est vachement plus difficile de parler, d'imposer mes idées. Et j'ai effectivement d'abord été victime des inégalités avant de voir les violences, et surtout avant de voir la violence d'être victime de ces inégalités. Et à quel point aujourd'hui, quand on me reproche de parler un peu trop fort ou d'être un peu trop en colère, j'essaye de faire comprendre que c'est une sorte de terrorisme qu'on vit constamment et qui détruit ce qu'on a à l'intérieur. Et que donc moi, tout ce que j'essaye de faire, c'est de le reconstruire et de faire en sorte que la jeune génération n'ait pas la même destruction.
Et vous le faites bien. Dans notre fabrique du genre, depuis le début de l'année, nous avons donc recueilli dans le désordre un vélo et des clés de vélo. C'est plus pratique avec, hein, faut dire. Un pot de confiture, un maillot de foot, un clitoris, ça aussi, ça peut servir. Des aiguilles à tricoter et un tatouage de violoncelle. Ça commence à avoir de la gueule dans le genre. Grand n'importe quoi, cette histoire. Vous aussi, viendez participer à notre labo du genre. Je sais que viendez, c'est une faute de français, ça va, je suis pas débile. Soit en m'écrivant directement sur mon compte Twitter, soit sur la boîte mail de l'émission, passongenre@radiofrance.com. Passongenre, c'est terminé pour ce soir. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venu nous voir. Raphaël Rémy-Leneux, je rappelle le titre de votre livre « Beyoncé est-elle féministe ?» coécrit avec Margot Collet, c'est aux éditions First. On vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci
dans
beaucoup.
Vos nouvelles aventures. Mais chut, on ne dit rien pour l'instant.
Encore.
Marion Séclin, vous, on peut dire qu'on retrouve votre web-série Zérostérone sur France TV/. À venir également un nouveau podcast 100% fiction, ça s'appelle Conscience et ce sera disponible dès le 7 octobre. Cela dit, on peut déjà s'y abonner. Cécile Domas, le deuxième numéro de Elle, la newsletter de Libération sur les questions de genre, sort demain à la une.
On a quoi ? Beaucoup de choses. Le mythe essoufflé de la parisienne, des pères qui travaillent trop et une analyse formidable du patriarcat par la grande théoricienne du Caire qui s'appelle Carole Gilligan.
Et la newsletter, on la trouve où ?
On la trouve sur libération.fr.
Évidemment. Maxime Ruznievski, on retrouve votre dernière collection d'entretiens sur l'égalité et la diversité dans le cinéma sur le site chicane.fr. Et vous serez le 2 octobre au YouTube Space de Paris pour une conférence sur la parité dans le cinéma. Vous inviterez Woody Allen. Restez à l'écoute de France Inter juste après le flash. Vous avez rendez-vous côté club avec Laurent Goumard. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un joli week-end tout plein de Beyoncé.